C'est que l'insoumission, ce défi, ce slogan politique aussi, cette si belle posture qui consiste à désobéir et à faire le pari de la liberté. C'est un mot héroïque, insoumis, que convoque, vous aurez remarqué, les plus grands poètes. Et j'aurais voulu m'en remettre à quelques-uns, de Victor Hugo à Mahmoud Darwish, en passant par André Gide, si souvent cité. Vous vous souvenez forcément de ces phrases, comment les oublier ? Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être, que par des insoumis. Sans eux, c'en est fait de notre civilisation, de notre culture, de ce que nous aimons et qui donnait à notre présence sur Terre une justification secrète. Ils sont, ces insoumis, le sel de la Terre et les responsables de Dieu. Insoumis, insoumis, mais qu'est-ce que c'est que d'être insoumis ? Ce mot que l'on brandit, non sans fierté, mais qui, pris dans sa plus littérale définition, relève soit de la naïveté, soit de l'aveuglement, parce que l'on sait que l'on est toutes et tous soumis à des logiques de domination. Insoumis, oui, mais dès lors qu'on a compris qu'il s'agissait d'un combat permanent, pour ne pas dire d'une utopie, l'insoumission, en réalité, c'est seulement la prise de conscience de son irréfutable soumission et la volonté, c'est déjà pas mal, de la remettre en question.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il un insoumis, lui qui dans ses romans décrit sans détour les injustices et les violences du monde qui l'entoure. Il est l'un des grands noms du polar français qui l'a sorti de ses carcans intimes et tricolores. Après Hutu, Zulu, Mapuche ou Condor, il publie Pourvu que ça brûle, un livre aux accents très autobiographiques où il revient sur tous les voyages qui ont fait de lui l'écrivain qu'il est aujourd'hui. Bonjour Caryl Ferret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. C'est quoi l'insoumission pour vous ?
Pour moi, ce serait d'être libre de ses désirs. À partir de là, que ce soit à travers le travail, l'amour, le sexe, si on est libre de ses désirs, on est le roi du monde un peu.
Et c'est possible ? C'est le cas ?
C'est un choix. C'est un choix qu'on fait. Ce serait un combat si on n'était pas sûr de ça, quoi. Mais à partir du moment où on est sûr de nos désirs, on les suit.
Et dans le monde politique, il y en a encore aujourd'hui de l'insoumission ?
Il y a eu Mandela, il y a des choses comme ça, quoi. J'espère qu'il y a un ou une femme, encore mieux une femme, noir, par exemple, ce serait bien. Moi, je suis plutôt pour les minorités, en fait.
En littérature, Caryl Ferret, ça voudrait dire quoi, être insoumis ?
En littérature, moi, je pense qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui écrit, en fait. À partir du moment où on écrit, on est libre, et donc on n'est plus soumis au monde. Parce que le temps de l'écriture est complètement rétracté, c'est un autre temps, en fait.
Et par exemple, dans vos livres, précisément, comment est-ce que ça se représente ? Comment ça s'incarne ?
C'est les soucis des autres, en fait, quoi. Parce que l'insoumission, c'est une chose qui nous regarde au premier chef, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même les autres. Et moi, c'est le regard sur les autres qui m'intéresse. Et tout ce qui est les souffrances des autres, souvent, c'est des gens qui sont opprimés. Donc, entre l'insoumission et l'oppression, là, il y a un grand écart, quoi. Et c'est ce grand écart qui m'intéresse.
Mes livres, dorénavant, seraient politiques, tendance pas de quartier. C'est ce que vous écrivez, page 85 de votre nouveau livre, Pourvu que ça brûle. En quoi écrire pour vous, Caryl Ferret, c'est aujourd'hui, dorénavant, un geste politique ? Ça veut dire quoi ?
Je me suis rendu compte avec le temps que tout était politique, en fait. Au départ, quand on est adolescent, on est un peu plus tourné sur soi-même, ce qui est un peu normal, quoi. Mais encore une fois, l'essence de politique, c'est la police, de vivre ensemble dans la ville. Mmh. Et ce qui m'intéresse, moi, je pense que tout est politique. La façon dont on aime les gens est politique. Est-ce qu'on est plus pour soi ou plus pour les autres ? Moi, je décline tout comme ça.
Et pour autant, ça l'a pas toujours été, hein, puisque vous dites dorénavant. Quand est-ce que ça l'est devenu ? En fait, quand est-ce que ça s'est imposé à vous la nécessité de décrire, en fait, le monde tel que vous le voyez ?
En fait, comme j'ai pas fait d'études, quand on est autodidacte, on est obligé de. C'est un choix qu'on fait ou la vie fait pour nous. Et moi, j'avance par choc, en fait. Quoi. C'était pas du tout prévu comme ça. Quoi. C'était valable en musique, les premiers chocs avec les Clash ou des choses comme ça ou Bowie. Et en politique, ça a été en lisant une bio de Che, en fait, quoi, de Che Guevara. Après, je fais pas d'idéologie. Hein, il avait aussi des défauts, quoi. Mais quand on voit que son bourreau, c'était un ancien SS, enfin Klaus Barbie, en fait, quand même, qui était le conseiller de Barrientos, quand on est face à des choses comme ça, je dis attends, c'est pas possible, quoi. Klaus Barbie, le tortionnaire de Jean Moulin, se retrouve à bosser pour la CIA en traquant Che Guevara. Je dis ah non, c'est pas possible, quoi. Là, j'y allais pendant 3 jours, hein. Et après, je suis devenu, alors là, tout était politique. En fait, je me suis rendu compte que tout était lié.
Et avant, vous écriviez quel genre d'histoire ?
J'écrivais déjà des histoires d'amour qui finissaient mal. Ce qui n'est pas très original.
C'était un signe, Caryl Ferret, si ça se trouve. Vous écrivez qu'il n'y a pas besoin de vivre des choses tragiques pour écrire des histoires, qu'il suffit de quelques sentiments inflammables. Ça veut dire quoi, les sentiments inflammables ?
C'est ce qu'on ressent en fait. Hein. Moi, j'ai la chance d'avoir une famille super. J'ai pas été violé par mon grand-père, genre d'horreur. Mais après, c'est ce qu'on ressent en fait. Quoi. Et encore une fois, c'est des trucs de choc en fait. Quoi.
Un truc qui brûle.
Voilà, bah, tout ce que j'aime, c'est incandescent en fait. Quoi. Que ce soit Brel sur scène, quand j'ai vu Brel sur scène la première fois, enfin la télé évidemment. Je dis, ah, c'est pas possible. Ça brûle. Ça, c'est du pur punk, en fait, quoi. Et ça se décline en tout. En philosophie, du coup, c'est Nietzsche. C'est pas Platon, quoi. Il est trop plat, Platon, quoi. Nietzsche, au moins, ça défonce, quoi.
Et pourquoi vous écrivez, en fait, pour retrouver ça? Pour trouver aussi des sentiments inflammables?
Oui, sans doute, ouais. Mais c'est dans mon tempérament. Hein. Enfin, on a chacun notre tempérament. Le mien, il est plutôt, enfin, il est brélien, clashien, enfin, comme on veut, quoi. Mais moi, je suis vraiment dans la, quand on voit une peinture, c'est ce qu'on ressent, en fait, qui compte, quoi, en fait. Et moi, je suis vraiment dans le ressenti ou dans l'émotion, en tout cas.
Enfin, vous souvenez de pourquoi vous avez commencé à écrire?
Parce que je m'ennuyais terriblement à l'école.
Hein, c'est vraiment, une bonne raison,
quoi.
Ça.
Ouais. Et, j'ai fait c'était ou de la guitare électrique ou l'écriture. Et puis, malheureusement, la guitare, j'ai vu très vite que j'étais pas bon du tout. Et que j'étais un peu moins mauvais en écriture. Et surtout, ce désir de raconter des histoires, première fois que j'ai écrit, j'avais 15 ou 16 ans, en fait, j'ai écrit à un pote. Et j'ai écrit quasiment 4 heures de suite. Je savais même pas qu'on pouvait écrire 4 heures de suite. Et j'ai l'impression qu'il s'était passé 5 minutes. J'ai dit, mais c'est quoi ce temps fou, en fait? Alors là, pour le coup, c'est un temps qui brûle.
C'est encore le cas aujourd'hui?
Ah ouais, complètement.
Tant pourvu que ça brûle, vous dites que vous n'aviez pas le choix en fait, que c'était vivre libre ou mourir. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Ben, c'est un peu les trucs de punk en fait, hein. Enfin, plutôt punk rock, hein. C'était les berruyers noirs et tout, ouais. Vivre libre ou mourir, c'était une chanson, mais ça se décline sur les Indiens d'Amérique. Je suis plutôt Sitting Bull que le capitaine qui est en train de péter ses faillots sur son chariot, quoi.
Mais en quoi écrire, ça fait de vous un homme libre, Caryl Ferret?
Mais parce que quand on écrit, on est le roi du monde. On peut résoudre des injustices, enfin, en tout cas, bon, que ce soit politique ou autre, mais on peut aimer qui on veut. On crée une héroïne, puis quand on reste 4 ans sur un livre, au bout d'un moment, on la connaît. Moi, je rêvais même de Gianna dans Mapuche, je rêvais d'elle, et j'étais amoureux d'elle dans mes rêves, mais je me réveille le matin avec ce sentiment fou, amoureux. C'est quand même dingue, on peut se créer soi-même des personnages comme s'ils existaient. On est complètement... enfin, là, c'est la liberté totale, quoi.
C'est peut-être ça le lieu de l'insoumission, alors c'est la fiction.
En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet de rester insoumis.
Celle qui est insoumise dans cette émission, vous la connaissez peut-être, Caryl Ferret, c'est la culture et son actualité rebelle, comme pas deux. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 17 janvier? Omar Sy, alpin, l'acteur, personnalité préférée des Français, le président de la 20e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez qui s'ouvre aujourd'hui dans la station iséroise. Jusqu'au 22 janvier, comédie populaire et futur blockbuster prennent de la hauteur. Au programme notamment Red Dingue, le nouveau Danny Boone en ouverture, sous le même toit de Dominique Farrugia en compétition, Pierre Richard en invité et le 10e anniversaire du Jamel Comedy Club en piste.
Regarde, j'ai gagné ce mot-là!
Princess Smarty Pants. Written by Babette Cole.
Dernière heure de Cole, l'auteur et illustratrice britannique Babette Cole s'est éteinte dimanche. Elle avait 67 ans, signataire de près de 150 ouvrages pour la jeunesse. Elle avait commencé sa carrière en 1977 après son diplôme de Canterbury College of Art. Mais c'est 9 ans plus tard, en 86, qu'elle rencontre le succès grâce à son personnage de princesse fine mouche, héroïne anticonformiste qui préfère élever des monstres et flâner plutôt que de porter des jolies robes et se chercher un prince. Ma vie, quoi. Vous l'avez reconnu? Non, petits indices, c'est le roi de la funk et des chapeaux extravagants. Jamiroquai est de retour, soit 6 ans après Rock Dust Light Star, son dernier album en date. La clique de JK vient de poster une courte vidéo en ligne pour annoncer la sortie prochaine d'un nouvel opus. Ambiance futuriste et couvre-chef à LED, le groupe culte des pistes de danse des années 90 a décidé de faire dans le funk du turfu. Let's dance! Barnum arrête son cirque après 146 ans d'existence. Le cirque américain Barnum, autoproclamé plus grand spectacle du monde, vient d'annoncer sa fermeture pour mai 2017 en cause des problèmes financiers causés par le déclin de la vente de tickets depuis que l'institution a été forcée par les défenseurs des animaux de retirer son numéro d'éléphant qui constituait le clou de son spectacle. Quel cirque et quel dommage. car il ferait invité de Boomerang ce matin, car vous êtes très prolixe, pour ne pas dire bavard. C'est le moment de vous engager sur l'actualité de la culture. Qu'est-ce qui retient votre attention? Est-ce que c'est ce cirque mythique? Est-ce que c'est une auteure pour enfants? Est-ce que c'est le rire avec Omar Sy et le festival de comédie de l'Alpe d'Huez, ou alors peut-être Jamiroquai?
Moi, je suis plutôt rock, hein, au niveau. Enfin, j'aime beaucoup le funk. Enfin, j'adore danser, hein, donc le funk, j'adore. Le cirque. Pour moi, ça m'appelle Sitting Bull, en fait. J'ai fait dire que Buffalo Bill, quand même, le tueur de bisons, enfin, le mec qui a participé quand même à l'extermination, à la fois des bisons et donc du garde-manger des Indiens, les a invités, à faire une tournée, en Europe, à faire les clowns, en fait, quoi. Les Indiens, la moitié sont morts de maladies, etc. Je trouve ça dramatique, en fait, quoi. Quand un peuple disparaît, c'est comme une espèce animale aussi, hein. Bon, on va dire les mammifères, hein. Quand les moustiques disparaissent, j'en ai rien à foutre, mais, c'est vraiment une façon de penser. Quand des gens disparaissent, une tribu, par exemple, enfin, qu'on appelle une tribu, c'est une façon de penser le monde qui disparaît. Et ça me touche, méchamment.
On le sent, le sentiment incandescent, pourvu que ça brûle. Votre nouveau livre a paru il y a quelques semaines, c'est pas un polar. Dites-moi si je me trompe, mais revenir sur votre parcours, vous l'aviez déjà fait, en fait. Et je vous ai d'ailleurs reçu sur une autre chaîne de radio pour parler de ce texte qui s'appelait « Comment devenir écrivain quand on vient de la Plouquerie internationale ». Deux livres là-dessus, sur vous, vous en tant qu'écrivain. Ça peut pas être innocent, c'est forcément coupable. Ça témoigne de quoi?
En fait, ça me fait rigoler, en fait, hein. Moi, je viens de la campagne, de Montfort-sur-Meu, donc tout est dit déjà. Et le premier, c'était effectivement, en connaissant personne, absolument, comment arriver chez Gallimard au Festival de Cannes en venant de la Plouquerie, hein, la grande Plouquerie internationale.
Quand même, oui.
J'y tiens. C'est un parcours du combattant qui était tellement. Moi, j'ai la chance, j'ai une chance folle dans la vie, et j'ai eu mais tellement de galères que ça en est devenu comique. Donc c'était un voyage tragicomique.
Et romanesque aussi.
Ça devient carrément romanesque, quoi. Et sur le dernier, c'était pas tant sur le monde de l'édition que sur l'écriture même et ce qui meut les auteurs. Et j'espère que ça se lit comme un roman.
C'est le cas, ouais, effectivement. Mais ce qui est intéressant quand même, et justement, c'est que vos polars, vos romans, ils résistent à l'intime et à l'écriture de soi en s'ouvrant sur l'ailleurs, sur l'étranger, sur les autres. C'est comme si vous développiez en fait une seconde veine dans votre travail qui serait beaucoup plus auto-fictionnelle, là, justement.
Mais parce qu'il y a un décalage total entre mes livres qui sont quand même violents, voire certains ultra-violents, enfin les polars, on va dire, quoi, et puis ma vie, par ailleurs, qui est plutôt joyeuse,
oui.
Mais il y a vraiment un grand écart entre les deux, mais c'est cet écart-là, moi, qui m'intéresse, en fait.
Alors, dans ce livre, hein, vous revenez sur la jeunesse de certains de vos plus grands livres, hein, comme Condor ou encore Zulu, et ce qu'on découvre, en fait, c'est que tous vos personnages, tous les lieux dont vous parlez, vous y avez été. Qu'est-ce qui relève de l'invention dans un livre de Caryl Ferret? Je me suis posé la question.
Ben moi, ce qui m'intéresse, c'est pas, bon, si on parle de violence, c'est que c'est pas des passages gore, tout ça m'intéresse pas du tout, quoi. C'est que la violence, on la ressente comme un truc qui touche le lecteur. Et pour ça, il faut que le lecteur, il se mette dans la peau des personnages. Et on est, enfin, quand on rencontre, quand on voyage, on rencontre plein de gens qui sont parfois hyper émouvants, comme les grands-mères à la place de Mai, par exemple en Argentine. Et si les lecteurs ont réussi à les mettre dans la peau de ces gens-là, du coup, ils vont recevoir les choses de manière beaucoup plus forte que juste la fiction. Donc moi, je me sers de mes rencontres, surtout de mes rencontres, pour prendre un petit peu justement l'essence des gens, en fait.
C'est-à-dire que moi, je pourrais me retrouver dans un de vos livres, par exemple.
Mais tout à fait, Augustin.
Mais alors, quel surnom est-ce que vous me donneriez? Parce qu'il faut le dire aux auditeurs quand même. Vous avez cette manie d'affubler les gens que vous rencontrez de surnoms étranges. Éléphant souriant, cheval fougueux, beauté flippée, ourson producteur. Je serais quoi, moi?
Ben, il faut bien connaître les gens. Alors, je vous connais pas assez encore, Augustin, mais enfin, il y aura un truc bondissant, sans doute.
D'accord, sautillant, voilà. Bondissant. Oui. Ça vient d'où, d'ailleurs, cette tradition?
Ben, c'est des noms d'Indiens.
Les Indiens,
en fait.
C'est
un petit hommage aux Indiens. Alors, voilà, ben, Sitting Bull, Taureau assis. Et, Hippon sanglant. J'ai un copain qui est hyper d'art, qui fait de la musique. Et donc, Hippon sanglant, ça, il y a un peu japonisant aussi, ça lui va bien.
Et Joe Strummer des Clash, que vous connaissez bien, auquel vous rendez, hommage dans votre livre, La jambe gauche de Joe Strummer. Ça serait quoi son petit nom, allez?
Joe Strummer, c'est déjà un nom d'Indien, en fait, à lui tout seul, en fait. J'ai pas réfléchi à ça.
Alors on les écoute, les Clash, sur votre conseil. C'est vous qui me les avez imposés, en fait, hein, par SMS. Mais dans ce cas-là, moi, vous savez, je me soumets, hein, volontiers. 1979, London Calling, sur l'album du même nom. Vous êtes sur France Inter, avec Caryl Ferret. Vous écoutez Boomerang, mardi, Révolution. London calling through the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard,
you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing, except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going in. Engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning. I live by the river, to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engine stuck on him, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning. And I live by the river.
Trapenard.
Vous demandez, il est où le rock'n'roll? Mais il est là, en face de moi, parce que c'est vrai que malgré les années, il a gardé cette fougue, hein, cette intensité, cette énergie frondeuse et juvénile, résolument punk, avec son visage anguleux, de tête brûlée, ses yeux bleus, de bourreau des cœurs, ses cheveux gris dressés sur la tête, pas bien grand, hein, format barricade, manif et festival, mi Gavroche, mi Jean-Paul Gaultier, physiquement, du genre à partout se faufiler, boucle d'oreille de pirate, pull breton bleu marine, jean, Santiago de biker, c'est une terreur, car il Ferret, invité de Boomerang, pour son nouveau livre « Pourvu que ça brûle », où vous revenez, Caril, on le disait, sur votre parcours d'écrivain et donc sur vos voyages en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Argentine ou en Afrique du Sud. Je me suis demandé en quoi, sans les voyages, vous ne seriez pas devenu l'écrivain que vous êtes aujourd'hui.
J'ai commencé à écrire avant de voyager, mais c'est sûr que quand on a la chance de voyager en plus, je me suis dit, bon, écoute, là, en plus, t'as vraiment matière à sortir du sillon. Alors, là, je reprends Deleuze, hein, déconner, c'est sortir du sillon. et en plus, ça, par rapport à tout ce que j'aimais, enfin, le côté indien, on va dire, plutôt que cow-boy, bah, évidemment, quand on va en Nouvelle-Zélande, les Indiens, ils s'appellent Maori, en Afrique du Sud, ils s'appellent Zulu, Mapuche, ailleurs.
Mais il y a les Indiens en France.
Il y a peut-être des Indiens en France.
Parce que, en tout cas, des injustices, des violences, des exclusions, il y en a en France aussi. Pourquoi est-ce que ailleurs, c'était plus facile de les voir et de les écrire?
Parce qu'en fait, c'est encore l'idée d'aller voir les autres, en fait. Et souvent, on peut penser que, par exemple, qu'au Chili, ah bah oui, mais ils sont loin, ça n'a rien à voir avec nous. Pas du tout. La crise qu'ont eu les Argentins, vraiment purement capitaliste, systémique de néolibéralisme, celle qu'ils ont subie, les Grecs l'ont subie 10 ans plus tard, et on pourrait la subir. Donc, on est tous liés les uns aux autres. Ça, je suis persuadé de ça.
Et c'est intéressant, cette volonté de faire un détour, en fait, pour parler de nous.
Oui,
c'est ça que vous êtes en train de dire. Le voyage qui vous a le plus marqué, c'était quoi?
Le tour du monde en Nouvelle-Zélande, parce que bon, j'avais 20 ans et puis c'était tout était la première fois, donc c'est vraiment un truc de gamin, quoi. Mais par contre, après
l'aventure, ouais.
Ouais, d'aventure. Puis, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de selfie, il n'y avait pas de téléphone portable, etc. Donc, on était complètement paumés, quoi. Et
cette idée d'être selfie,
cette idée d'être perdu au bout du monde sans contact possible avec les autres. Alors, ça, c'était un sentiment de liberté dingue. Mais après, c'était quand même vraiment, je pense que c'est l'Argentine. Parce que vraiment, les grammaires à la place de mai, ça, c'est un truc qui m'a bouleversé totalement.
Et le Chili, je me suis demandé à partir duquel vous avez écrit Condor, votre dernier livre. C'était quand et c'était pourquoi?
Il se trouve que les Mapuche habitent aussi au Chili, enfin même surtout au Chili. Et puis quand on allait les voir hein, sur place, quand j'ai vu qu'ils étaient traités comme terroristes sur leur propre territoire, j'ai dit ah bah tiens, elle est quand même pas mal celle-là quoi. Et la loi, comme la démocratie est revenue après Pinochet, toutes les lois antiterroristes ont été abrogées, sauf pour les Mapuche en fait, hein, parce que les multinationales étaient chez eux, donc en fait on dit bon. On les considère toujours comme terroristes parce que comme ça on va pouvoir garder leur territoire en fait quoi.
Et vous y revenez avec Condor.
Et du coup, j'ai su revenir avec Condor, oui, parce que entre l'Argentine et le Chili, les deux livres étaient assez cousins, quoi. Mais je voulais faire, je voulais aussi parler des Mapuche au Chili. Et la situation, la grosse différence entre l'Argentine et le Chili, c'est que l'Argentine, ils ont fini par juger leur bourreau, le Chili non. Et quand on voit ce que ça donne, c'est le moral des gens, en fait, qui est en berne au Chili, quoi. Alors qu'en Argentine, ils ont la pêche, quoi.
Condor, ce livre, il se trouve que vous en avez fait aussi un spectacle sonore. Faut nous raconter.
Ah ben ça. Quand on écrit, on est dans son coin et puis voilà, on donne tout ce qu'on donne et puis 6 mois plus tard, les gens le lisent quoi. L'avantage du live ou de la scène, c'est que là, on est en direct et c'est comme le cinéma. Quand ça passe par d'autres gens, ça multiplie l'émotion par 10 ou 1000 en fait quoi. Et là, sur Condor Live, les deux musiciens, c'est des deux vieux potes qui étaient avec moi au Chili en plus quoi. Donc vraiment, ils font partie de ma vie. Et Bertrand Cantat que je connais depuis longtemps, bien avant malheureusement tous ces drames. Le fait de pouvoir faire un truc avec lui, c'est dingue. Pour moi, dans les artistes français, il y a eu Brel, Ferré et puis Cantat quoi. Enfin, c'est une fois tous les 40 ans qu'on a la chance d'avoir un artiste pareil.
Et ça donne ça.
Il se pencha, souverain du vide, et laissa guider sa main. La rosée du monde avait mouillé les draps de sa robe. Catalina ne portait rien d'autre que l'aube. Que l'aube et ses pieds nus qui s'enfonçaient dans le sable. Il sourit. La pluie tombait toujours élastique. Et tout là-bas, au pied de la dune, les gosses exultaient en de longs râles cosmologiques. Du ciel, il venait de recevoir la carcasse qu'il dévorait, et des carcasses de Coca-Cola, des carcasses de corbillard. La curée du bonheur, on vous dit, la curée du bonheur. Tu es prêt ? Il fit signe que oui, mais sa cartouchière était vide. Elle lui jeta un regard à passer par-dessus bord. Et lui continuait de sourire. Allez, ne t'en fais pas. Et il vissa l'arme à son poing.
Cette musique qui arrive à presque chamanique, en fait. Là.
Oui, c'est lui. Bertrand, il est chamanique.
Qu'est-ce qui vous met en transe, vous ?
Sa voix, par exemple.
Ça arrive souvent ?
Oui, bah oui, que j'écris tout le temps avec sa voix, lui ou d'autres, hein, mais ouais, ça me met pas besoin de drogue, hein, ça me met direct dans la pesanteur.
Vous l'avez dit un petit peu, la musique, car il ferait, ça a été votre rêve pendant très longtemps. Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui ?
La musique toujours, en fait. Quand on fait quelque chose, on est toujours frustré d'un autre art entre guillemets, quoi. Et donc en tant qu'auteur, pour moi, la musique, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout.
Ça vous gratte, mais vous grattez un peu quand même, du coup ?
J'ai arrêté la guitare, non, non.
Vous faites quoi pour faire de la musique? Vous chantez?
Je chante. Quand j'écris, je chante, je me fous en transe. Des fois, je danse. Hein.
Vous dites tout fort et vous dansez?
Non, non, enfin, je chante ce qui passe comme musique quand j'écris, quoi. Et je suis un peu schizophrène, en fait, quoi.
Et vous relisez ce que vous écrivez?
Oh, ben, un milliard de fois, quoi.
Très fort?
Non, 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 non. Ah. Alors, j'ai pas de gueuloir, en fait, quoi. Ouais, non,
je
non,
me suis demandé, du coup.
Mais non, parce qu'en fait, je reprends 500 fois toutes mes phrases, parce qu'au début, elles sont nulles, hein. Donc, il faut travailler ça. C'est vraiment un travail d'artisan, hein.
Comme à tous mes invités, Caryl Ferré. Je vous ai donné carte blanche pour terminer cette émission. Vous avez choisi de nous lire un texte de Raoul Van Eghem, dont vous mettez une citation en exergue de votre livre. Vous avez choisi les dernières lignes de nous qui dérisons, qui désirons sans fin. Pourquoi ce livre, faut nous dire d'abord?
Raoul Van Eghem, c'est un ancien situationniste et qui est parti plutôt du côté des femmes, des animaux et du la puissance de vie. Et il se trouve qu'en plus quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer qui est absolument charmant. Et j'adore son écriture. Elle envoie des punchlines, mais de bout en bout, quoi. Alors pour un truc d'insoumis, alors là, ça se pose là.
Génial. Alors on écoute.
Il n'y a pas de récompense puisqu'il n'y a pas de châtiment. Il n'y a que la jouissance mieux déterminée à croître et à s'affiner qu'à se défendre et s'aguerrir contre ce qui l'entrave et la nie. Heureux celui qui, au-delà de tout sentiment de réussite ou d'échec, sans présomption ni mépris de soi, déroule le fil labyrinthique de l'existence en s'avouant « Ainsi ai-je désiré du fond du cœur que cela soit. De telles choses ne sont possibles que sur la terre. »
Merci beaucoup, Caryl Ferré. Ça c'est dit. Pour vous, désirer, ça veut dire quoi ?
Vivre. Vivre, vivre.
Tout est question de désir.
Oui.
Et quand on vous lit, quand on vous entend lire ce texte, on a envie de vous poser une question, en fait. Qu'est-ce qui vous fait espérer, du coup ?
Je désespère beaucoup, puisqu'on meurt, en fait, quoi. Moi, je suis complètement athée, et je suis vraiment dans les, ici et maintenant, quoi. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui me fait désirer, c'est le présent, en fait.
Pas de futur, jamais. Jamais de visée. Jamais de demain.
Si demain, parce que demain vivre encore, quoi, et s'améliorer de jour en jour, essayer de se coucher moins bête qu'on se lève.
J'aime bien ça, moi, demain vivre encore. Merci encore d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Pourvu que ça brûle est publié aux éditions Albin Michel. Je rappelle aussi qu'il est encore temps de s'abonner au podcast de Boomerang. Ça ne mange pas de pain, c'est simple comme bonjour, ça fait plaisir à tout le monde. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait, ne travaillait jamais. Pareo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux, le goût du sel sur la peau. Elle était belle, j'étais beau. Sous un baldaquin de tulle, une bougie, le clair de lune, nos deux corps dans une bulle, le cœur et la fortune. On ne parlait pas d'amour. L'amour, c'est quoi ? On ne parlait jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. Ne parlez pas d'amour. L'amour, c'est quoi ? Ne parlez jamais d'amour. Le grand amour, ça n'existait pas. C'était l'amour, je m'y connais, jusqu'à ce jour de fin juillet. Elle souriait, mais je devinais, le vent avait tourné. Affolé par l'épouvantail de quelle erreur monumentale. L'amour, le vrai, le beau, c'était barré au galop.